trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est à nos côtés, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous.
Julien Pierre Nouan, directeur des études de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion, nous accompagne également. Bonsoir Julien Pierre. Et nous accueillons à nos côtés enfin Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria.
Bonsoir.
Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois, messieurs. C'est la question, alors je voulais glisser en off avant de démarrer l'émission, mais la question étant de savoir si la Fed a été hawkish ou dovish hier soir, Zakaria.
Alors,
vous avez eu le temps de réfléchir, du coup.
Si on regarde la réaction de marché, baisse des taux d'intérêt, resserrement des spreads de crédit, marché actions en hausse, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les différents intervenants de marché ont une lecture plutôt dovish de la Fed, avec ce qu'on appelle le fameux put Fed qui s'est mis en place, c'est-à-dire que la Fed va être là sous moindre ralentissement économique pour imprégner une politique monétaire plus expansionniste et soutenir ainsi l'économie. Voilà, tout à fait. Après, en fait, on peut avoir une lecture, si on prend uniquement les projections des membres de la Fed, indépendamment du discours de Powell qui a en fait accentué ce côté dovish, on peut se questionner sur cette interprétation. Notamment, on voit que donc la croissance, bien entendu, enfin, a été révisée à la baisse, oui, en dessous du potentiel, à 1,8 sur l'horizon de prévision. Mais on voit aussi que l'inflation a été revue à la hausse, l'inflation core notamment, et avec le mot-clé d'hier, c'est l'incertitude. Avec une incertitude, 18 répondants sur les 19 du membre de la Fed ont répondu qu'ils avaient une incertitude sur ce forecast, et cette incertitude n'est pas symétrique. C'est une incertitude à la hausse de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que l'inflation arrive à 2% en 2027, mais ils s'attendent mais
le risque, c'est que ce soit plus.
C'est que ça soit plus. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt, si on se limite à ces données chiffrées qui sont clairement, objective, eh bien en fait c'est plutôt un meeting de la Fed qui est plutôt hawkish, ouais, dans le sens où la Fed aura peut-être les mains liées, même dans en cas de ralentissement, que ça soit de facteurs économiques structurels ou de la guerre commerciale qui s'annonce. La Fed ne pourra peut-être pas être aussi active qu'elle le voudrait s'il y a ce sujet d'inflation.
La pire de toutes les situations pour une banque centrale, c'est celle peut-être que signale la Fed, en tout cas dans les risques qui pourraient se matérialiser, avoir moins de croissance que ce qu'on anticipe, alors qu'on a déjà baissé les perspectives de croissance, et plus d'inflation que ce qu'on projette, alors qu'on a déjà relevé nos projections d'inflation.
Voilà, tout à fait.
Parce que j'ai... Et dans quel cas, dans ce genre de cas, on n'est pas sûr de savoir si la Fed baisserait ses taux parce que la croissance est inférieure à ses propres anticipations, ou si elle les montrait parce que l'inflation est supérieure à ses propres anticipations.
Bien, historiquement, on pourrait penser que la Fed privilégierait, en fait, même s'il a un mandat dual sur l'inflation et la croissance, pourrait privilégier l'inflation si on voit un désancrage qui est marqué.
Ah oui.
Beaucoup citent l'enquête de Michigan de la semaine dernière, mais s'il y a des biais énormes entre votants démocrates et républicains, si on a dans ces scénarios pas de telle sorte, la Fed clairement privilégierait en fait la limitation de désancrage des anticipations d'inflation. Ce que la Fed peut tolérer, c'est que les anticipations d'inflation à terme augmentent un peu. Le désancrage est problématique. Non. Et on peut le voir, par exemple, en 2022, ouais, où on pensait que finalement, la hausse forte des taux de la Fed va créer une récession aux États-Unis. Dans ce cas de figure-là, la Fed a quand même choisi de monter ses taux une fois qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait ce désancrage qui commençait à se mettre en place. Donc on peut penser que dans ce scénario-là, la Fed va aller dans ce sens. Est-ce que le président Trump laisserait la Fed faire ça? Notre question.
Oui, on reviendra à Trump. Non, mais l'idée qu'il puisse y avoir une nouvelle bosse d'inflation, notamment liée aux tarifs, ça a été évidemment au cœur du sujet de la conférence de presse de Jérôme. Pourquoi pas? On peut le tolérer, mais il ne faut pas que les anticipations d'inflation se désancrent sur ces questions.
Voilà, et je pense que c'est pour ça que la Fed met l'accent, d'ailleurs la Fed et toutes les banques centrales qui ont pu communiquer là-dessus, mettent l'accent sur leur interprétation et leurs calculs, leurs estimations sur le fait que l'impact des barrières douanières va être un one-off. Si on commence tout de suite à communiquer pour dire que finalement, en fait, cet impact va être potentiellement à long terme, on peut inciter les différents acteurs économiques à désancrer quelque part ces anticipations d'inflation.
Et on retrouve donc le qualificatif transitoire qui a été à nouveau utilisé par Jérôme Powell hier soir pour qualifier l'idée d'une bosse d'inflation liée aux tarifs. Notre scénario central à ce stade est que cette bosse d'inflation pourrait être transitoire. Julien Pierre, sur la Fed.
Oui, c'est vrai qu'en... Pour résumer sur la Fed, je pense que dans un contexte très incertain, ils essaient de se ménager toutes les voies possibles. Les dots nous disent effectivement, si on a une croissance qui tient, on a ce sujet d'inflation, on va rester peut-être sur ce scénario de baisse. Peut-être moins, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose d'avoir seulement une baisse en scénario médian, ça s'est joué à un votant. En fait, je pense que la question, on peut aussi la poser de la manière suivante, c'est de savoir où est le niveau d'activation du put de la Fed.
Bien sûr.
Il y aura un put de la Fed, c'est-à-dire que la Fed ne laissera pas l'économie américaine se cracher, même s'il y a un sujet d'inflation. Maintenant, le seuil à partir duquel il sera activé est peut-être plus bas que ce qu'il a pu être par le passé. En 2018, on avait eu une baisse du marché de 20% qui avait fait changer de braquet la Fed. À l'époque, Jérôme Powell disait qu'ils étaient un peu en pilote automatique les hausses de taux. Et puis, quelques mois plus tard, non, on repart à la baisse de taux parce qu'il y a eu ce gros choc sur les marchés. Mais il n'y avait pas de sujet d'inflation à l'époque, même si on avait effectivement les droits de douane. C'est vrai qu'en théorie, les droits de douane, c'est un choc, un one-off sur les prix. Maintenant, ça vient après une période où l'inflation a quand même été pendant assez longtemps forte. Donc, ça fait partie. L'accumulation de chocs peut faire qu'on a un décalage des anticipations. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les enquêtes aujourd'hui, encore aujourd'hui dans le Philly Fed sur les composants de prix, ça accélère fortement. Donc, je pense que ça va être un sujet. Il y a aussi d'autres volets de la politique Trump à prendre en compte. La lutte contre l'immigration, ça resserre aussi le marché du travail. Donc, est-ce que les salaires ralentiront aussi fortement que ce qu'ils avaient fait grâce à cette grande arrivée de main-d'œuvre en 22-23 ? Ça va aussi faire partie des sujets qui vont être importants pour cette question de l'inflation et donc, in fine, de la Fed pour les marchés.
Ouais. Trump, ça reporte, ça décale dans le temps le retour à l'objectif d'inflation de la réserve fédérale américaine, c'est ça?
Oui, sans doute. Et déjà, on le voit, lorsqu'on regarde les chiffres d'inflation, l'inflation core, elle s'est en fait stabilisée sur un niveau qui est plutôt 2,5-3 que les 2% de la Fed. Si on est autour de 2,5, je pense que c'est tolérable pour la Fed, mais si on se stabilise et qu'on voit des signes de réaccélération, une inflation qui se mettrait à réaccélérer vers les 3 en glissement annuel, ça serait sur l'inflation core, je pense que ça serait assez compliqué pour la Fed.
Et là, le risque d'inflation concerne les prix des biens, c'est ça ? Ce sont les biens de consommation, notamment, dont les prix pourraient repartir à la hausse. Alors que là, on était très focalisé sur une inflation domestique de services. Là, le risque va porter sur l'autre partie de l'inflation, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre facteur aussi à prendre en compte, c'est que lorsqu'on regarde le marché de l'immobilier, et notamment sur l'habitat collectif, on a eu une bosse d'arrivées sur le marché de biens qui ont aidé aussi à résoudre les tensions de ce marché immobilier. Il y a quand même eu moins de mises en chantier récemment. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de retendre un peu le marché du logement qui a été aussi une composante importante de l'inflation des services? Donc, le sujet de l'inflation n'est pas totalement résolu et risque même de revenir au premier plan pour la Fed.
Bon, qu'est-ce que vous retenez de la conférence de Jérôme Powell hier soir, bien sûr, Vincent, et de ce qui va faire bouger la fonction de réaction de la Fed, là, dans les prochains mois et les prochains trimestres?
Alors, tout en souscrivant à ce qu'ont évoqué Zacharia et Julien Pierre, je pense que, en effet, les marchés ont clairement une interprétation dovish de cette réunion. Je pense que, et même si je souscris à cette idée que l'inflation restera évidemment un des paramètres central pour la Fed, on se rend quand même compte que l'économie américaine a reçu un choc, en tout cas de confiance, qui est quand même important, notamment sur les services. Enfin, les PMI services sont quand même fortement baissés, c'est quand même assez spectaculaire, je trouve, notamment sur la partie de l'économie qui devait répondre positivement à l'arrivée de Donald Trump, en ce qui compte, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises. La baisse de l'indicateur confiance NFIB était tout à fait importante. Et puis, le moteur de l'économie américaine, les consommateurs, ne savent plus non plus à quel sens vouer, notamment en raison des craintes sur l'inflation. Donc, je pense que, certes, historiquement, c'est vrai que cette inflation est un paramètre important. J'y vois plutôt une bosse temporaire, en effet. Le risque, il est peut-être, comme Julien Pierre l'évoquait, sur le marché du travail. C'est vrai que les tensions induites par la politique migratoire, là, pourraient amener quelque chose de plus durable dans cette inflation. Et c'est sans doute quelque chose auquel il faudrait être plus vigilant. Mais on a revu, nous, comme la FED, sensiblement nos perspectives de croissance à la baisse. C'est quand même de 2,1 à 1,7 sur 2025. C'est forte révision à la baisse. Donc voilà, chez nous, on est même en delà d'un 7, alors qu'on avait en décembre encore une estimation à presque 2,5. Donc le choc sur le premier trimestre, il va quand même être tout à fait significatif. Et il touche des moteurs économiques qui ont été importants et relativement contributeurs ces derniers mois. Donc moi, j'en retiens quelque chose de dovish à juste titre, ou en tout cas, j'apporte en tout cas un regard un peu contrariant, même si je suis assez d'accord avec ce qu'évoquait Zakaria, que la croissance, ça pourrait vraiment être un sujet de préoccupation aussi aux États-Unis dans ce contexte-là. Maintenant, gardons à l'esprit qu'on a un peu le mauvais Trump ici en début d'année, et que c'est un petit peu les mauvais côtés de son agenda, qui reste quand même évidemment des mesures fiscales qui doivent être reprises plus tard cette année et qui pourraient là redonner un petit peu plus d'enthousiasme. Notamment
on a eu que le bâton pour l'instant.
Sur la fiscalité des investissements en recherche et développement, sur la fiscalité tout court. Donc là, on pourrait peut-être avoir, je dirais, un petit peu quelque chose de plus positif. Mais voilà, je retiens en tout cas, comme les marchés aujourd'hui d'ailleurs, plutôt l'aspect positif de cette politique monétaire où les baisses de taux sont quand même assurées pour cette année compte tenu du trou d'air économique auquel on fait face.
Oui, c'est quand même un point de révision à la baisse pour la croissance américaine, là, en quelques mois, avec le choc de confiance. Rien que le choc de confiance et d'incertitude justifie qu'on enlève
un
point de croissance sur l'année pour l'économie américaine. C'est ce que Donald Trump appelle une période de transition. Un régime où on passerait de croissance au-delà du potentiel, ça fait quoi ? Au moins 2 ans que l'économie américaine, trimestre après trimestre, est au-dessus de son potentiel, pour revenir pendant quelques trimestres au moins sous le potentiel, c'est ça, une période de transition.
C'est une transition turbulente, et alors, paradoxalement...
Parce que si c'est 1,5, c'est pas si mal encore, hein, après des années. Bah oui, ça peut être pourquoi pas plus faible, hein, j'en sais rien.
Comme on l'a évoqué, c'est que c'est conjugué évidemment avec une inflation qui remonte, donc c'est vrai que pour l'électorat de Donald Trump, ou les Américains de manière générale, c'est évidemment en tout cas une transition plutôt difficile à avaler. Donc c'est vrai que cet électorat va se retrouver squeezé des deux côtés. C'est moins de création d'emplois, moins d'activité économique et un coût de la vie qui reste élevé, un coût de l'immobilier qui reste élevé. Donc c'est vrai que ça va être quand même, en tout cas pour la base électorale de Donald Trump, ça va quand même être plutôt difficile à avaler à mon avis comme pilule. Et oui, je trouve qu'objectivement, ça ne semble pas l'alerter, ni Wall Street, ni Main Street pour l'instant. On verra un petit peu qui finalement fera bouger Donald Trump dans les mois prochains.
Quelle est sa fonction de réaction?
Enfin voilà, il faudra, après le bâton, il faudra quand même venir avec un certain nombre de carottes, je pense.
Peut-être la stratégie. Le séquençage a peut-être été imaginé comme ça.
En tout cas, la seule certitude qu'on a, et c'était une des incertitudes de décembre, est-ce que finalement les discussions tarifaires sont une technique de négociation ou une réelle menace ? Il y a quand même un petit peu plus des deux. On voit quand même qu'il y a moyen, en tout cas, de négocier avec Donald Trump. Il faut trouver les bons mots. Alors, le Canada ne les a pas tout à fait trouvés. Le Mexique a été un petit peu plus fin en la matière. On verra si l'Europe, finalement, dans ce contexte-là, trouve une voie aussi pour sortir de la crise.
Moi, je n'avais pas de doute que le Trump transactionnel existait toujours. Là où je suis surpris, c'est que je trouve qu'il y a quand même une vision un peu plus dogmatique, en tout cas chez certaines personnes qui l'entourent à des postes économiques clés, pour nous dire que les tarifs, c'est là pour durer, que oui, ça peut jouer dans la négociation, mais que c'est aussi demain une source de revenus pour l'État fédéral américain, que c'est une manière de remettre le système monétaire mondial aussi à l'avantage des États-Unis. Ils sont persuadés que le système leur est défavorable, soit le système commercial ou le système monétaire. Donc, il y a aussi quand même...
Mais en attendant, je pense qu'en Europe et en Asie...
Un truc un peu structurel dans la pensée autour des tarifs.
Et merci Trump et merci pour cette vision, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans les deux autres grandes économies mondiales, Chine et Europe, ce qui se passe aux États-Unis a forcé les autorités à prendre leur avenir en main. Et je dirais, en Europe, on le sent très bien avec les décisions allemandes et les futures décisions européennes. Mais on l'a vu en Chine aussi, qui s'est réveillé également sur le soutien à la consommation. C'est tout à fait inouï.
C'est le mauvais Trump pour les États-Unis, mais c'est le bon Trump pour le reste du monde, pour l'instant.
Voilà,
c'est
parfois ça. À voir.
Trump et Powell, vous le disiez d'un mot tout à l'heure. Moi, il l'a plutôt laissé tranquille jusqu'à présent. Alors hier, il met un petit tweet, Trump, pour dire il faut que la Fed baisse les taux, etc. Bon, son objectif de marché, c'est la baisse des taux longs. Les taux longs ont baissé hier. D'une certaine manière, Jérôme Powell a quand même... n'est pas monté au créneau ou en confrontation brutale avec Trump à ce stade.
C'est peut-être aussi peut-être la casquette de Powell pendant la conférence de presse. On peut penser, on peut interpréter ça également comme une motivation pour essayer de garder quelque part cette indépendance par rapport à l'exécutif Aujourd'hui, je pense que Trump laisse tranquille Powell parce que on n'est pas dans une situation conflictuelle où la Fed devrait privilégier l'inflation sur la croissance. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, on peut s'attendre, bien entendu, Trump, on connaît le personnage, donc oui. On peut s'attendre à quelques sorties, mais que globalement, il n'y a pas d'interférence. La question va se poser vraiment si on se retrouve dans ce scénario de risque où l'inflation réaccélère. Tant que ce n'est pas le cas, on va rester dans une, deux baisses par an. Sur l'année, il n'y a pas de sujet.
Au fond. J'entends. Il aura des baisses de taux. Le fait que Jérôme Powell annonce un ralentissement de la réduction du bilan de la réserve fédérale américaine, alors sur la partie treasury, ce qui courait à 25 milliards par mois, on ne va plus réinvestir que 5 milliards, c'est ça
Exactement.
On ne va plus prendre que 5 milliards au marché, oui, c'est ça. Donc en fait, dans la réduction de bilan.
On était sur un système où, en gros, tout ce qui tombe, on le réinvestit. Ouais. Et puis après, en fait, on a capé cela pour enlever en fait 25 milliards
par mois. C'est ça.
Et là, dorénavant, la Fed va enlever que 5 milliards par mois. En citant des tensions sur le marché monétaire, sur la tuyauterie, on va dire, du marché monétaire. Donc, l'élément positif, c'est que ça met moins. Le marché va avoir à absorber moins de treasuries. En gros, 20 milliards par mois sur les 9 mois. Donc, ça fait 180 milliards sur l'année.
C'était nécessaire d'annoncer ce genre ce genre d'opération technique, entre guillemets. C'était... Il dit que ce n'est pas de la politique monétaire. Il ne veut pas en faire un outil de politique monétaire. Mais bon, ça soulage quand même, vous disiez, le marché de 180 milliards.
Exactement, oui. En fait, on voyait quelques micro-tensions sur le marché, mais rien qui ne poussait à une réaction, on va dire, tout de suite. C'est peut-être aussi pour contrebalancer l'effet des annonces, des projections. Mais en gros, ça fait 180 milliards de moins, donc ça contribue nécessairement à la baisse des taux et ça va également dans le bon sens, dans ce sens-là.
On a vu la baisse des taux longs hier, sans doute liée aussi à cette annonce de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui nous attend le 2 avril, Julien Pierre ?
Bonne question.
Au-delà du fait que ce sera donc dans le narratif politique de Trump, le jour de libération de l'Amérique, désormais. Une date sacrée, là.
Voilà. Donc, pour rappel, début avril, Donald Trump reçoit un rapport sur les pratiques commerciales des autres pays. Un rapport qui devrait donner un peu une base pour annoncer de nouvelles mesures. Donc, est-ce que ce seront ces fameux droits de douane réciproques? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est au niveau du pays en moyenne, par catégorie de produits? Il y a beaucoup de flou là-dessus. Hein. On a très peu de détails. Et puis, on va voir. Il faudra voir aussi, dans un deuxième temps, comment les autres parties répondent. Est-ce que c'est une réplique à la chinoise, donc très mesurée par rapport à ce qui a été fait, ou une version un peu plus maximaliste, comme ce qu'a pu faire le Canada jusqu'à présent?
Et plus les réponses sont fermes, plus le risque d'escalade est important, plus le risque perdant-perdant est important à l'arrivée. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, Julien Pierre. Il peut y avoir plein de bonnes raisons d'être ferme face aux tarifs de Trump, mais ça peut avoir aussi un coût économique.
Ça a un coût économique, évidemment. Ça a un coût économique pour les deux parties. Beaucoup pour les États-Unis. Lorsqu'on regarde les simulations qui sont faites par les instituts spécialisés dans le commerce international, disent que de ce contexte de guerre commerciale, les deux grands perdants, ça reste quand même les États-Unis et la Chine. Alors, à condition d'avoir effectivement des augmentations réciproques. Et finalement, l'Europe pourrait finalement pas trop mal s'en sortir parce que, mine de rien, le renchérissement des importations américaines, c'est aussi le renchérissement, in fine, des exportations américaines qui utilisent des intrants venant du reste du monde.
Oui, bien sûr. Ouais. Bon. sur le risque de guerre tarifaire généralisée. Bon, pour l'instant, c'est que de la spéculation. Mais le 2 avril, visiblement, il va quand même se passer quelque chose, Vincent.
Oui, alors moi je pense qu'en Europe on a quand même aussi un petit peu de soucis à se faire aussi par ailleurs, mais oui, on verra un petit peu ce qu'il en est. On a quand même un excédent commercial qui continue à croître des États-Unis, donc c'est quelque chose qui va certainement pas être très bien perçu à Washington, donc prudence. Alors on temporise là l'Europe aussi.
On a décalé un peu la réponse.
Voilà.
On va avoir une première phase de réponse dès le début avril et finalement on verra plutôt mi-avril.
On marche sur des œufs en Europe, hein, puisque bon, il faut pas oublier qu'on a quand même aussi un petit peu compliqué la vie d'un certain nombre d'entreprises américaines. Avec nos sanctions sur les géants de la tech, avec nos normes, notre réglementation dans beaucoup
notre cathédrale normative
dans beaucoup de domaines. N'oublions pas non plus, moi, un de mes sujets de prédilection, qu'on a quelque chose qui est en gestation pour le 1er janvier 2026, qui est la mise en application de notre Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est finalement un tarif vert, mais néanmoins un tarif.
Et, TVA, taxe carbone, tout ça, c'est vu comme des tarifs par l'administration Trump.
Et ceux qui ont le plus à perdre, là, c'est les Américains, parce que bon, les Chinois, ils taxent quand même déjà un peu le carbone, les autres aussi, les Américains, c'est zéro, à part certains États. Mais c'est ridicule. Donc, nul doute que dans ce rapport qui lui sera délivré, annoncera quand même un peu la couleur que l'Europe est en train de préparer ceci et que c'est quelque chose qui, évidemment, va tomber un petit peu mal pour les Américains. Donc, prudence, certainement pour les économies exportatrices, inflation aux États-Unis, mais chez nous, il y a quand même certainement, dans certains secteurs clés, des questions à se poser. Malheureusement pour la France, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand il y a un peu des barrières tarifaires qui augmentent, c'est toujours le vin ou c'est l'huile d'olive italien ou c'est ainsi de suite. Il y a un peu comme ça, des totems, quoi,
oui, de Paris. Exactement.
Il n'y a pas d'autres termes.
C'est Harley Davidson de l'autre côté, quoi.
Voilà. Donc, mais pour certains secteurs, certaines catégories de produits, c'est évidemment quelque chose à suivre avec grande attention.
Bon. Bah, restons sur l'Europe, si vous voulez bien, Vincent. Oui, donc il y a le risque Trump, évidemment, à compter du 2 avril. Et puis, il y a le risque positif généré par une Allemagne qui a pris un virage budgétaire historique. On raconte ça depuis 15 jours, tous les jours dans cette émission. Mais je veux continuer d'en parler parce que je pense que c'est un moment important.
Oui, c'est fantastique.
C'est fantastique. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change pour l'Allemagne? Qu'est-ce que ça change pour l'Europe? Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur et la manière dont il regarde l'Europe, dont il regardera l'Europe demain, par rapport à la manière dont il pouvait regarder l'Europe hier?
Je trouve que c'est vraiment un tournant. Alors moi, je le ferai objectivement, c'est quelque chose que je n'attendais plus. J'étais finalement un pessimiste structurel sur l'Europe parce que je ne la voyais pas à la hauteur. Alors l'Europe institutionnelle est quand même encore un peu à la traîne sur ce dossier, même si Rearm et autres sont des bonnes initiatives, mais elles sont quand même un petit peu vides lorsqu'on creuse un petit peu. Ce que fait l'Allemagne est évidemment tout à fait tangible. C'est quelque chose qui va amener la plupart des analystes à revoir à la hausse le potentiel de croissance de l'Allemagne de manière assez substantielle. On réalise nous chaque année des hypothèses de marché à long terme, on verra de combien on l'augmente pour l'Allemagne, mais enfin ce sera quand même significatif. L'Allemagne redevient la locomotive économique de l'Europe alors qu'elle était un petit peu le maillon faible, ces dernières années c'était plutôt le pays malade en Europe. C'était le seul pays européen qui avait les moyens et le devoir d'investir. Ils le font, ils en tireront dans leur sillage un certain nombre d'autres pays. Par ailleurs, je note que dans la coalition allemande, il y a quand même un peu cette dimension européaniste qui est quand même également qui va de pair avec ce programme d'investissement. Donc c'est doublement intéressant à l'heure où d'autres pays sont quand même plus contraints dans leur capacité de relance budgétaire. Je ne vise ici personne, mais enfin, on sent évidemment qu'en France, en Italie, en Belgique, évidemment, on ne va pas pouvoir en faire autant et il y aura certainement un appel d'air assez significatif derrière. Donc oui, et on voit d'ailleurs, ça fait qu'aujourd'hui à Washington, à Hong Kong ou autre, la perception de l'Europe a quand même changé. On le disait l'an passé, il y avait un certain nombre de prérequis pour que l'Europe puisse reperformer. Il fallait déjà qu'on ait une espèce de paix en Ukraine. On ne l'a toujours pas, mais on parle de cessez-le-feu ou de paix tant à Moscou qu'à Washington, qu'à Kiev. Donc, d'une manière ou d'une autre, on aura bien quelque chose qui...
Enfin, c'est programmé par Trump. En tout cas, ça fait partie de son...
Voilà. Et puis, une coalition pro-croissance en Allemagne. Et là, on a trouvé un artifice constitutionnel, ou en tout cas un artifice politique, que pour faire passer cela. Et là, c'est vraiment
du grand. Ça change le statut des actifs européens pour des investisseurs globaux anglo-saxons qui... Je demandais vraiment ces dernières années si ça méritait de regarder l'Europe.
À certains égards, oui, parce que qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années? Alors, sur la croissance allemande, qui, notamment sur les infrastructures, relancer l'industrie en Europe, qui était quand même un peu cette partie deep value, on voit que l'industrie est parmi les meilleurs secteurs depuis le début de l'année en termes de performance en Europe. Donc là, on va distiller évidemment des investissements tout au long de la décennie à venir et veiller à ce que ces investissements trouve essentiellement le chemin vers l'industrie européenne. On en parlait hors plateau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans chaque euro dépensé en défense en Europe part pour plus de la moitié hors de l'Europe. Donc il faut quand même essayer de veiller à ce qu'il y ait un peu ce patriotisme, en tout cas en termes de dépenses de défense. Donc ça, c'est une bonne chose, je pense. On parle de dérégulation. On l'a vu notamment pour le secteur automobile, qui crie depuis des années que les normes CO2, c'est quelque chose qui les pénalise, à tel point qu'ils sont obligés d'acheter des crédits carbone à Tesla, par exemple. Donc là aussi...
Voir à BYD,
cet alignement des astres fait qu'il y a quand même aujourd'hui une perception de l'Europe qui, tant d'un point de vue, je dirais, géopolitique, macro-politique et autres, est déjà plus appétante. La valorisation, on le savait, mais il se passe quelque chose aujourd'hui dans le secteur qui était resté en retrait. Et on a quand même toujours une BCE qui, au contraire de la Fed, a encore relativement une voie royale pour continuer à être relativement gentil avec le marché.
Oui, on verra pour la voie royale.
Mais et nos banques s'en réjouissent. Et voilà. Donc oui, je pense qu'il y a réellement, en tout cas, matière aujourd'hui d'être plus optimiste sur l'Europe grâce à ce qu'a fait l'Allemagne.
L'Europe, les actifs européens peuvent redevenir stratégiques, structurels dans des portefeuilles avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Julien Pierre ?
Vu les mouvements sur les années passées de flux qui sortaient un peu systématiquement de l'Europe, les investisseurs qui, en décembre dernier, se demandaient encore « mais pourquoi avez-vous de l'Europe dans les portefeuilles ?» Je pense qu'effectivement, là, on est sans doute dans une première phase de mouvement de balancier, un peu correction de cet excès de pessimisme de la fin de l'année dernière qui était arrivé à un niveau extrême. Après, c'est clair, je suis d'accord avec Vincent, que les perspectives de moyen terme sont clairement améliorées. Parce que pour l'Allemagne, ça devenait urgent. Hein. Je rappelle que en volume, le PIB allemand du dernier trimestre, ça nous ramène à 2019.
Ah, c'est ça. 5 ans sans croissance.
Donc on a différents volets, la défense, l'infrastructure, aussi l'assouplissement du déficit pour les collectivités, enfin pour les lenders. Donc ça, c'est... Et mine de rien aussi, des choses qui peuvent être assez intelligentes. C'est-à-dire que tout le monde a dit, oui, mais est-ce qu'on a la capacité d'augmenter la production d'équipements militaires comme ça, Rheinmetall répond, on peut récupérer les usines de Volkswagen, donc ils n'ont plus besoin. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses. Après, ce qu'il faudra bien avoir en tête, c'est le séquençage. Et le séquençage, il n'est pas immédiat. C'est-à-dire que tout ça va sans doute commencer à être visible dans les chiffres plutôt vers la fin de l'année 25 et clairement en 26. Avant, il y a effectivement, comme l'a dit Vincent, la menace des droits de douane de Trump qui pourrait arriver, mettre un petit coup de froid sur la confiance en Europe. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que l'enthousiasme du marché à court terme, est-ce qu'il ne peut pas être un peu douché par ces annonces de droits de douane ? Peut-être, mais par contre, ça créerait clairement des points d'entrée pour une phase beaucoup plus
favorable. Creux, un trou d'air là, sur les actifs européens. Beaucoup est dans les prix. Enfin, les prix ont intégré déjà beaucoup de bonnes choses, mais vous dites une logique buy the dip là, en Europe peut se mettre en place tout à fait, effectivement, avec ces perspectives moyen terme qui sont rehaussées.
Oui, parce que alors c'est l'Allemagne, mais ça nous dit quand même qu'on ne va pas revenir dans les erreurs du passé de resserrement budgétaire trop rapide. On sait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut faire de l'investissement. Et donc, on commence à mettre en place les outils pour y arriver. Voilà, en France, il y a ce produit d'épargne pour financer la défense. On peut penser qu'on aura un certain nombre d'autres initiatives. Hein. Il y a la capacité de financer ça domestiquement. Hein. Il y a beaucoup d'épargne domestique. Investi de manière très peu risquée. Et donc, on peut avoir un cercle vertueux qui se met en place. Je pense qu'avec le rapport Draghi, on est rentré dans une phase... En septembre dernier, on est rentré dans une phase de prise de conscience chez les dirigeants européens, dont on voit une nouvelle manifestation sur ces questions de défense et qui peut être porteuse sur plusieurs années.
Bon. Qu'est-ce que ça change pour les actifs européens ? Alors, l'euro, la devise... Le refuge ultime qui reste évidemment l'obligation souveraine allemande, le Bund, mais qui sera peut-être traité de manière différente demain, je ne sais pas, si l'Allemagne doit s'endetter à 70-75% de son PIB, ça peut changer aussi des choses pour le Bund, par exemple, en tant qu'actif refuge.
Oui. Ce que les investisseurs ont en tête aujourd'hui, c'est en gros, on va augmenter l'endettement, donc les taux d'intérêt devrait mécaniquement monter. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le bond d'aujourd'hui comme actif refuge, c'est un actif très rare. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez, en fait, au final. Donc, ça pourrait, en fait, pousser encore plus la vue sur le bund comme étant actif refuge à être utilisé un peu plus comme actif refuge. Et ça rejoint le point de l'euro. C'est-à-dire que la question que se pose aujourd'hui beaucoup d'économistes sur le fait que le dollar est la valeur refuge et c'est la devise de réserve, on peut peut-être assister à un petit mouvement. Il ne faut pas être sur ce domaine... trop ambitieux non plus, malheureusement, c'est deux réallocations vers l'euro comme actif refuge. Et ce genre de programme et le fait que l'Europe montre d'un point de vue politique qu'on peut en fait financer de façon conjointe, intelligemment, sur des sujets qui mobilisent. Alors avant c'était NGU par rapport au Covid, aujourd'hui c'est sur le sujet de la défense. Eh bien en fait, ça permet aussi de renforcer la cohésion européenne et donc en fait de faire taire toutes les critiques sur l'euro comme quoi c'est pas une monnaie fiable. Et on le voit par exemple sur les spreads de crédit. On voit que sur la France, le spread de crédit se resserre. Ouais. Par rapport à.
C'est non volé de la courbe euro, mais les spreads se sont resserrés.
Voilà. C'est la même chose aussi pour l'Espagne, c'est la même chose pour l'Italie. On est vraiment dans les zones basses. C'est la même chose pour la Grèce également. Ouais. On est dans des zones basses sur les spreads de crédit. Et cette dynamique-là, si elle continue de s'enclencher, on peut en fait assister quelque part à cette réallocation des actifs de réserve vers plus d'actifs actifs européens. Et par rapport à la réallocation, US versus Europe, on peut aussi citer le Fund Management...
L'enquête BOFA, bien sûr, spectaculaire, du mois de mars.
75%. Des répondants qui annoncent avoir réalloué des US vers l'Europe.
J'ai vu le positionnement des investisseurs donc exposés aux actions américaines sur le mois de mars dans ce sondage mensuel de BOFA, c'est moins 40 points. Et à l'inverse, le positionnement des gérants de fonds exposés aux actions européennes, c'est plus 30 points.
Oui,
de l'histoire du sondage, visiblement, ça n'est jamais arrivé. Une rotation de vue ou de positionnement aussi
important. Et du coup, ça montre quelque part ce changement, quelque part, au-delà juste d'une seule annonce, c'est vraiment le changement de vision sur l'Europe en se disant, en fait, l'Europe, oui, elle peut être cohérente, ça peut constituer un ensemble qui est viable dans le temps et sur lequel je peux utiliser comme actif.
C'est pas juste, on veut sortir des US parce qu'on est trop concentré, que c'est trop lourd, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'attractif en face.
Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, on a connu des épisodes passés où on voulait sortir des US, mais il n'y a pas d'alternative fiable. La Chine pousse pour les DTS, les droits de tirage
du FMI,
parce que sa devise n'est pas 100% librement convertible. L'Europe, on a toujours douté de cette fragmentation, donc il y a toujours eu ce sujet-là.
La part de l'euro dans les réserves de change n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a beaucoup bougé, c'est la part de l'or dans les réserves, dans les réserves des banques centrales, qui a remplacé un peu de dollars.
Et là, ce qui s'est passé ces derniers temps, quelque part, l'a plutôt justifié. Je pense que un certain nombre de pays émergents, et certainement les pays émergents non alignés, disons, étaient déjà conscients que les dollars, c'était pas tout à fait sûr pour eux. Depuis juin l'an passé, avec le gel, en tout cas, des avoirs en euros russes, et surtout l'utilisation des revenus de ces derniers
pour la guerre en Ukraine,
payer la guerre en Ukraine, a montré que les euros, c'était pas sûr non plus. D'où or et d'où crypto, on l'a fort vu l'an passé. L'or tient, crypto moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système monétaire international diversifié est clairement une réalité. Maintenant, le roi dollar a encore de beaux jours devant lui. Là, je ne m'inquiéterai pas pour ce sujet. Maintenant, paradoxalement, on peut faire le lien entre ce qui se passe. N'oublions pas que ce qui fait la force d'une devise, c'est aussi bassement la force de son armée. On l'a vu il y a 100 ans avec ce passage de relais entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Si l'Europe se réarme, si l'Europe est un acteur militaire de premier plan demain, c'est peut-être quelque chose qui nous permettra...
C'est un actif qui compte. C'est un actif qui compte, sans doute, dans l'appréciation d'une devise. Il nous reste quelques minutes, tour de table, sur en termes d'investissement. Alors, encore une fois, il y a de l'enthousiasme sur l'Europe, il y a de la défiance sur les États-Unis. Le marché reflète déjà en partie cette situation. Ouais. On a une correction de 10% sur les indices américains, une envolée des actifs européens et pas que depuis 15 jours. Hein. Le DAX, ça fait quand même des mois que ça monte. L'euro se réapprécie également. Il y a la question un peu tactique. Est-ce que ce serait légitime d'avoir une normalisation un peu de tout ça? On vendrait un peu la nouvelle. Et puis derrière ça, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille demain dans cette situation qui a un peu évolué quand même.
Vous évoquez le cas de normalisation, c'est clairement ce qu'on fait en termes d'asset allocation. D'accord. C'est-à-dire que finalement, l'asset allocation qui prévalait en début d'année, et certainement chez nous, qui était le long US equity, le court Europe, c'est quelque chose qu'il a fallu neutraliser. Alors, est-ce que c'est le moment de passer long Europe, court États-Unis ? J'estime que c'est peut-être encore un peu prématuré. Je pense qu'il y a un re-rating justifié, il y a une prime de risque qui peut être retirée pour l'Europe compte tenu des développements qu'on a eus. Maintenant, nous, on n'a pas encore fait le pas de passer en surpondération de l'Europe par rapport aux États-Unis.
Il y a des problèmes à court terme qui arrivent pour l'Europe, hein, ne serait-ce
voilà,
que les tarifs d'avril,
pas,
etc. Il y a
Julien
encore,
Pierre l'a justement oui, oui. mentionné.
Avant d'avoir déployé les 500 milliards d'euros d'infrastructures en Allemagne, oui.
Et en attendant, oui, oui. on a une situation J'entends. Sur l'emploi qui se détériore, une croissance qui reste quand même relativement en berne sur la zone. La France, ça va faire un peu. Ça va patiner au premier trimestre et partout, ce sera un petit peu difficile. Donc, prudence. Par contre, sur l'obligataire, je pense que ce qui s'est passé sur les taux en Europe est quand même particulièrement attrayant. Bon, quand je vois aujourd'hui les OAT à 3,5 et ainsi de suite, c'est quand même plutôt alléchant, même si on pourrait avoir des tensions liées au, en tout cas au déficit budgétaire ou aux tensions politiques. Mais sur l'obligataire, là, je pense qu'il y a certainement un repositionnement à opérer sur l'Europe, très clairement.
Julien Pierre.
Bah nous, on était en début d'année déjà surexposé sur l'euro, à la fois parce que voilà, on pensait que sur la croissance, on aurait un peu de mieux, pas par anticipation nécessairement des mesures en Allemagne, mais et surtout parce qu'on trouvait le marché américain très cher et pricant un scénario un peu idéal. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une position qu'on maintient parce D'accord. que bah, le marché américain, il est un peu moins cher, mais il reste quand même assez cher. Il y a quand même des inquiétudes sur la croissance américaine, hein, mine de rien, puis des effets un peu...
Ouais, de loupe. Ouais, bien
C'est-à-dire
sûr.
Que un des facteurs de soutien du marché, de l'économie américaine, c'était l'effet richesse. Entre ce qu'on voit sur les cryptos et le marché américain, bah, l'effet richesse, il pourrait un peu jouer dans l'autre sens. Donc voilà, on reste un peu prudent sur le marché américain, plus exposé sur l'Europe. Pas forcément encore à rajouter sur l'Europe, parce que voilà, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Puis
ça a monté.
Ce genre d'écart de performance,
oui. entre
historiquement,
les et
il
oui.
est sur si peu
ouais.
de temps...
Ouais.
C'est plutôt suivi de consolidation après, mais effectivement, voilà, si on a des corrections, bah on en profitera. On a, nous, un peu remonté les expositions au Japon, qui n'a pas fait grand-chose depuis un certain temps et qui a une dynamique économique quand même encore assez favorable. Mmh. On le voit, voilà, cette sortie de déflation, elle veut dire aussi que pour la croissance des résultats, c'est mieux. Puis il y a une histoire un peu de gouvernance sur les entreprises japonaises ouais. qui est intéressante.
Meilleure allocation du cash.
On aime voilà. Et par contre, c'est vrai qu'en exposition globale aux actions, on reste quand même un peu prudent parce que on va voir ce qui se passe le 2 avril.
Ouais, je comprends.
Ça peut, ça peut générer pas mal de volatilité.
Ouais. Sur la partie crédit, taux justement, un mot du crédit à yield. Enfin, les spreads ont bougé un petit peu quand même aux États-Unis. Ça reste totalement dans des zones connues, contrôlées, maîtrisées. Ou c'est déjà un petit canari de quelque chose ?
Non, en fait, il y a un écartement qui n'est pas. On n'est pas en mouvement de panique. Mais il y a quand même des choses intéressantes à noter. C'est que, en gros, c'est comme sur le marché actions, le high yield américain a toujours, presque toujours, surperformé le high yield européen. Et là, en fait, on voit cette tendance inversée. Et donc, le high yield, en fait, on pense souvent que les high yield, c'est des entreprises qui sont plutôt avec un levier financier important, qui ont des besoins de refinancement. Et en fait, on pense souvent que, parce que les taux d'intérêt sont élevés, que le high yield va souffrir. Et en fait, alors que la réalité du marché du high yield, c'est beaucoup plus lié à la croissance. Et en fait, on peut lier cet écartement à l'incertitude sur la croissance américaine qui s'est installée avec les surprises économiques aux US qui ont surpris termes d'enquête à la baisse. Donc c'est ça en fait qui peut traduire cela. Le problème c'est que il n'y a pas de visibilité en fait sur les US. Bien sûr il n'y a pas de visibilité sur l'Europe, mais il y a certains secteurs qui sont beaucoup moins exposés, on va dire à cette guerre commerciale sur lesquels qui sont écartés. M'excuserai l'expression par sympathie.
Oui, on l'utilise souvent, oui, oui, bien sûr.
Et du coup, en fait, sur lequel
il y a des points d'entrée.
On voit aussi que la hausse des taux a impacté négativement le secteur immobilier, alors que globalement, les entreprises sont beaucoup désendettées, ils ont beaucoup vendu d'actifs pour rendre leur bilan plus solide. Du coup, ce sont des points d'entrée plutôt intéressants sur ce marché-là.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Zakaria Darwish, CPR Asset Management, Julien Pierre Nouan, Lazare Frères Gestion et Vincent Juvins, JP Morgan Asset Management.